When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Un podcast un peu thématique cette semaine. On va prendre un peu de recul, on va prendre un peu de hauteur pour discuter attaque NBA, construction d'équipe. Pour ce faire, j'ai d'abord avec moi Tom. Tom, t'étais invité d'ailleurs au NBA Corner. Je fais la petite pub avant de te laisser la parole. Comment ça s'est passé ?
Ça s'est passé très bien. En plus, on vous invite à aller écouter ce podcast avec Josh, du coup, de NBA Corner. Donc, on a fait un podcast pour parler essentiellement des problématiques des Mavs, des Clippers, en fait l'actu NBA quoi. Donc, j'ai été invité en début de semaine et en fin de semaine dernière du coup, et ça s'est très bien passé. On vous invite à aller checker ça.
Bien sûr, allez checker la présence de Tom dans le NBA Corner. Et puis cette semaine, j'ai décidé, en usant mes pouvoirs beaucoup trop importants de boss, de le sortir de la présentation pour le mettre à l'analyse, c'est Adrien. Comment ça va, Adrien ?
Ça va très bien après plusieurs défaites décevantes là hier soir, là, puisqu'on enregistre le dimanche. Samedi soir, les Bulls ont totalement blowout un Magic décimé également, mais c'est pas grave, on prend, donc voilà, on est de bonne humeur.
Ouais, ce qui a fait avant, Tom n'était pas encore là, j'ai posé la terrible question, est-ce que Zach LaVine ne pourrait pas se glisser peut-être dans les dernières places du top 20, du DH20, on en discutera peut-être un jour. J'ai vu faudrait être sur YouTube pour voir ça, les yeux de Tom se sont grand ouverts quand j'ai dit ça. Alors, on va passer à un autre sujet, aujourd'hui on va donc discuter, comme je vous l'ai dit, construction, attaque, et avec un mot central, l'héliocentrisme. Alors restez avec nous, on va vous accompagner, on va vous expliquer de quoi il est question. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur YouTube pour voir les magnifiques casquettes d'Adrien, des casquettes des Bulls, et aussi sur les plateformes de streaming. Alors cette semaine, il y a eu visiblement un petit souci avec la deuxième partie de notre FAQ après les 20 premiers matchs de la saison. Alors, on va être totalement transparent, c'était un souci avec notre hébergeur. Tom peut le confirmer, nous et les hébergeurs, c'est une grande histoire, avec beaucoup de rebondissements, que ce soit pour le site ou pour le podcast. Ces dernières semaines, c'est assez sportif. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On vous remercie de nous avoir transmis l'information. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter cette deuxième partie, vous pouvez vous rendre sur le site dunkhebdo.com. Vous trouverez le dernier podcast et un lien qui marche, audio et vidéo. Et puis, pour les autres, on va espérer surtout que ce nouveau podcast va bien fonctionner. Du coup, j'arrête de parler et on se retrouve pour discuter héliocentrisme ensemble. L'héliocentrisme. Alors, je vais me prendre pour un présentateur de France Inter, de France Culture. Je vais d'abord définir de quoi on parle, puis ensuite, on va discuter pourquoi on a jugé ça important d'en parler aujourd'hui. L'héliocentrisme est un modèle astronomique dans lequel les planètes tournent autour du Soleil au centre du système solaire. Appliqué à la NBA, cela signifie construire autour d'une star et l'entourer de joueurs de complément. La star est entourée par ses planètes, les joueurs, pour maximiser ses forces et cacher ses faiblesses. Alors là, messieurs, je vais me mettre à la place d'un auditeur. J'entends ça, je me dis oui, et c'est quoi la différence entre l'héliocentrisme, Tom, et la construction d'équipe comme on le fait depuis les débuts de la NBA, c'est-à-dire avoir une star et l'entourer? Elle est où la différence?
Je pense que la différence est dans le niveau d'extrémisme dans lequel tu vas aller et le rôle offensif que va avoir ton joueur majeur dans toute la construction de ton équipe et de ton système. Je dis offensif et défensif. Si on prend un exemple récent, on va prendre le cas de James Harden qui avait une équipe construite totalement autour de lui. Ou bon, on va parler plutôt de l'itération avec Chris Paul. Ou par exemple, James Harden, c'était le joueur autour de qui tout gravitait. Donc il y avait des joueurs qui pouvaient complémenter ses forces, notamment avec des joueurs qui étaient capables de sanctionner au shoot, sanctionner de loin, et un bon joueur de pick and roll pour lui ouvrir l'accès au cercle et pour bénéficier de son jeu de pick and roll dans la personne de Clint Capela. Et aussi défensivement, ils ont et si opérer le changement de passer dans une défense en switch, puisque James Harden, c'est le seul système défensif dans lequel il était viable. Donc là, en fait, si on prend l'exemple des Houston Rockets, c'était une équipe totalement héliocentrée autour de James Harden, que ce soit offensivement et défensivement, puisque ses forces permettaient de renforcer la globalité du collectif, et il permettait en fait à des joueurs qui avaient un skill set entre guillemets limité d'être vus moins mauvais par rapport à toute la création qui leur enlevait. Donc c'est un joueur qui avait une énorme charge offensive à la création pour lui-même et qui avait aussi un énorme apport dans le jeu et la création pour les autres autour de lui.
Par rapport à James Harden, il y a une vidéo sur le sujet que vous pouvez trouver sur YouTube de Ben Taylor qui date de quelques années, où il avait une phrase assez intéressante, je trouve. James Harden, en termes d'implication dans l'attaque, c'était le volume au scoring de Michael Jordan et le playmaking de Steve Nash. Il ne parle pas ici de talent, mais bien de volume. Adrien, est-ce que t'es d'accord avec ce que a dit Tom? Et peut-être, alors on a parlé de James Harden, des Rockets de James Harden. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, peut-être, pour un peu éclairer nos auditeurs sur ce fameux héliocentrisme?
Alors oui, bah d'accord, la définition, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Après oui, des exemples, il y en a différents. Je pense qu'il y a différents types d'héliocentrisme. Celui-là, la maximisation d'un joueur tel James Harden, qui vraiment s'occupe de tout, en tout cas sur le côté offensif, là, à ce niveau-là, où fait et le scoring et la création, puisqu'il est très présent, comme tu le disais, avec des chiffres comparables à Steve Nash, qui était une forme d'héliocentrisme aussi en soi, en 2007 à peu près, avec les Suns, mais beaucoup plus sur la création pour les autres que pour le scoring. Harden, c'est les deux en même temps. Et on va retrouver des joueurs comme ça, on va y revenir probablement, mais il y a des joueurs comme ça actuellement, des Luka Doncic, des Trae Young, des Giannis dans une certaine mesure, un Westbrook, on pourra en parler. Et après, il y a des héliocentrismes un peu plus subtils, ou peut-être, parce que là, on focalise beaucoup sur la création balle en main, mais il y a un cas très intéressant pour moi qui est celui de Steph Curry, qui, dans les chiffres, ne va pas forcément, dans les statistiques brutes qui sont utilisées pour parler de cet héliocentrisme, ne va pas forcément ressortir comme le joueur qui est tout le temps là dans la création, et pourtant, beaucoup de l'offense, des stratégies offensives des Warriors tournent autour de Curry, mais en tant que joueur sans la balle, c'est Draymond qui lui va s'occuper plutôt d'être le ball handler dans ce système-là. Et il va aussi se poser la question des intérieurs, et ça c'est très intéressant, Nikola Jokic d'une certaine façon, Joel Embiid d'une autre, voilà. Donc il y a plusieurs types d'héliocentrisme, et même je rajouterai en petit teasing ce que j'aime appeler moi les Tatooine, c'est-à-dire les planètes à deux soleils, et je pense que c'est aussi une variante de cet héliocentrisme qui est quelque chose qui existait, tu vois, on parlait de Steve Nash, qui existe depuis quelques années, on va dire depuis le début des années 90, surtout avec les Michael Jordan et les Magic, ça a commencé un peu comme ça, et qui est en expansion globale ces dernières années. Donc voilà, il y a plein de variantes maintenant en 2020-2021.
C'est vrai, il y a un nom de joueur que tu as cité, c'est vrai, c'est très intéressant, Adrien. Russell Westbrook, si on prend toujours les catégories statistiques de Ben Taylor, selon lui, il avait une statistique qui était l'offensive load, on va dire la charge offensive, la contribution offensive. Le plus haut niveau, c'est Russell Westbrook l'année après le départ de KD, qui était vraiment un homme orchestre. Donc voilà, je pense que les gens ont un peu compris l'idée qui en sort, c'est vraiment un joueur qui a une contribution totalement disproportionnée dans l'attaque de son équipe. Parce que bien souvent, on parle d'attaque. Et j'aime bien ce que t'as dit, Adrien, c'est qu'en fait, souvent, quand ce débat-là, qui est assez récent aux États-Unis, parce que c'est quelque chose qui s'est créé, dans les années 2017-2018, parce que on a vu Westbrook faire quelque chose qu'on pensait totalement inimaginable, on met souvent ça sur, on rapproche souvent ça de joueurs comme Doncic, Trae Young, LeBron. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir Jokic, etc. Selon toi, Tom, est-ce que Jokic, c'est de l'héliocentrisme ou pas? Parce que je t'avoue que j'avais aussi, dans mes fiches, j'avais Jokic, point d'interrogation. En me disant, est-ce qu'on y est ou pas, ou on est un petit peu sur une ligne de crête?
Pour moi, Nikola Jokic, en tout cas cette saison, ça l'est, puisque quand tu prends la contribution et si tu prends par exemple le usage offensif et tu prends l'assist usage et tu prends sa contribution au niveau de l'assist percentage, c'est-à-dire le nombre de passes décisives que lui réalise par rapport au nombre de passes globales de l'équipe. Pour moi, Nikola Jokic y est. Après, tu peux rajouter aussi, faut compter aussi la partie turnover, toute la partie création, puisque même si c'est pas lui le premier initiateur dynamique, il y a tout le jeu passe par lui. Tu vois, un peu même comme on peut même peut-être même rajouter Sabonis, où le système de jeu est un peu construit autour de lui, et même si c'est pas de l'héliocentrisme au sens joueur dynamique, beaucoup de pick and roll, ça, là où Denver, eux, ils vont plus jouer beaucoup de dribble and off, du coup, avec Jokic un peu en point center, qui va être l'homme orchestre. Et c'est bien le ce que t'as fait, ce que t'as ajouté, du coup, Adrien, sur la partie des intérieurs. Et dans un registre similaire à Steph Curry, où on n'a pas les stats qui sont à l'appui par rapport à son milieu centrique, notamment au niveau de la création, limite, je pense qu'on pourrait même rajouter un joueur totalement opposé qui est Rudy Gobert, qui, Utah, c'est une équipe qui joue énormément de pick and roll, et Rudy Gobert figure toujours très haut au niveau des screen assists. Donc même si c'est pas une passe directe, ou c'est pas une passe décisive dans le box score, ben c'est quand même quelque chose que lui génère en fait par sa pose d'écran. Et même si c'est pas de l'héliocentrisme au sens global, parce qu'il n'y a pas vraiment de diffusion, moi je trouve que c'est un peu un certain apport indirect sur le jeu qui va certes bénéficier à quelqu'un d'autre, mais que lui a généré, un peu comme Steph Curry.
Est-ce que là, Adrien, on mélange pas aussi, je vais me faire l'avocat du diable, est-ce qu'on mélange pas beaucoup de notions aussi? Parce que certes, alors, si je continue l'exemple Rudy Gobert, alors certes, je comprends qu'en fait, il a, dans la stratégie offensive, il est totalement central, parce que c'est une équipe qui tire beaucoup à trois points, qui va compter sur sa présence intérieure pour mettre le système en place aussi défensivement. Mais dans ce qu'on peut comprendre de la définition, je pense qu'il y a aussi l'idée que c'est quelqu'un qui va scorer beaucoup. Il y a la dimension diffusion, mais il y a la dimension pure scoring. Donc est-ce qu'il faut pas aussi limiter parfois la discussion?
Sûrement un peu. Moi, je pense un peu. Je vais aller un peu dans le sens. Le seul dans l'histoire des gens qu'on a cités qui est considéré comme un soleil dans cet héliocentrisme avec une contribution plus importante à l'assist qu'au scoring, c'est Steve Nash. Et il fait figure d'exception, parce que sinon, quand on parle de même Magic, pour le coup, même Magic dans les fin des années 80, début 90, contribue plus par son scoring que par sa création, même si c'est pratiquement du 50-50. Je crois, voilà, j'ai retrouvé les chiffres. L'année 90, 49% en termes de contribution à l'assist, enfin à la création, au playmaking, et donc 51% au scoring. Voilà, c'est à peu près équilibré. Mais du coup, si on reste là-dessus, c'est vrai que le cas Gobert est un peu plus particulier. Je pense que c'est plus presque un héliocentrisme défensif. Il est là parce que l'équipe est construite défensivement pour utiliser et maximiser les qualités de Rudy Gobert, et ils le font très bien d'ailleurs. Et par ce fait, il est présent sur le terrain pendant de longues minutes et donc dans les possessions offensives. Et à partir de là, tu dois aussi utiliser ses forces et ses faiblesses. Mais là, on arrive à une construction d'effectifs qui est peut-être quelque chose de classique, j'allais dire. C'est-à-dire que bon, t'as des joueurs de basket dans ton équipe, ils sont sur le terrain, il faut quand même les maximiser pour que ton équipe joue le mieux possible. Ça reste quand même l'objectif.
Ouais, je suis assez d'accord. Quand on regarde un peu cet héliocentrisme, on a vraiment l'impression que c'est d'abord une idée offensive. On est d'abord sur une conception offensive. Alors, on va peut-être un peu avancer, les gars. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Parce que quand on regarde, je voyais une stat intéressante. Alors oui, on va chercher très loin. C'était des gars de l'université, enfin des étudiants de l'université de Berkeley, j'ai trouvé, qui ont utilisé une stat de Ben Fogg, donc l'usage percentage. Vous en entendez souvent parler, mais ils l'ont un petit peu, entre guillemets, trafiqué, parce qu'elle est imparfaite, cette stat. Le fait est que ils ont pris les joueurs à plus de 35% d'usage. Donc là, on est dans des très, 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 très hauts niveaux, hein, d'usage. C'est des joueurs, voilà, qui se gavent de ballons. Il y a un truc totalement fascinant, c'est qu'on a le même nombre de mecs qui, donc, ont cet usage à plus de 35 sur l'année 2020 qu'entre 2010 et 2014. Ouais. Une saison comparée à 5. Donc, Tom, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi on a, dans les années, on va dire qu'il y a l'air d'avoir un changement aux alentours de 2016-2017. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se dise, ben maintenant, on va un peu transformer la façon dont on va construire notre attaque.
Je pense que ça vient essentiellement de, l'effet LeBron James. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui peut vraiment se prouver, mais moi, c'est la sensation que j'ai, c'est l'effet LeBron James. On a vu LeBron James maximiser, entre guillemets, quand il était homme orchestre avec quatre shooters autour de lui, exploser tout le monde. Et je pense que ça a lancé quelque chose dans la ligue, puisque on voit que on le dit souvent que la NBA c'est un peu une ligue de personnes qui se copient. Donc du coup, tout le monde a essayé de chercher son primary ball handler, quoi, son premier playmaker de grande taille essentiellement, puisque il y a eu là où on avait essentiellement des meneurs plutôt scoreurs dans les années 90 début 2000, on y est arrivé avec plus des playmakers maintenant qui sont à l'aile, et on voit que c'est une position où la taille est extrêmement importante. On le voit même avec la Melo Ball, puisque les angles de passe et les différences que tu peux faire à cette position sont beaucoup plus importants. On a des, du coup, même si on a on parle beaucoup de skill ball et de small ball avec des 5 qui ont une taille moyenne un petit peu plus petite, mais quand on regarde au niveau des postes 1 ou des premiers playmakers, on voit que ce sont des joueurs qui sont beaucoup plus grands.
Je rajouterais un autre facteur, et forcément il y a cette histoire de la ligue se copie, on cherche à contrer le gars qui domine, évidemment, mais je pense qu'il y a aussi on en parle souvent, cette arrivée et cette dominance des statistiques avancées.
Ouais.
Et on est dans une ligue où on a de plus en plus de shooters à 3 points, où les joueurs sont de plus en plus spécialisés dans leur rôle. Et l'héliocentrisme amène quelque chose, alors pareil, qui n'est pas quantifiable, c'est une impression, moi, je trouve, mais une simplification, on va dire, du jeu, de ton jeu offensif et du rôle de chacun. C'est-à-dire que la création est donnée à lui, c'est lui qui a la balle, c'est James Harden, tiens, pour prendre l'exemple de Bill 17. James Harden, pick and roll, et ensuite... Le reste de l'offense est basé sur la création qui va découler de ce début de possession. Et du coup, c'est quelque chose qui, statistiquement, te permet de voir beaucoup plus simplement la maximisation, prendre tel type de shoot ou pas. Et je pense que c'est une certaine facilité et un résultat statistique. C'est-à-dire qu'on voit que l'efficacité est plus grande en jouant comme ça. Pourquoi se priver? Sachant que ça permet donc aux autres joueurs, qui sont donc les fameuses planètes autour du soleil, de maximiser aussi eux leur spécialité, que ce soit le tir, la défense, et puis de les décharger d'une certaine seconde création sur, par rapport à des systèmes comme l'offense en triangle ou des choses comme ça.
Pick and roll, kick out, pick and roll, kick out. Enfin, franchement, c'est vrai que beaucoup de, quand tu lis des articles sur l'héliocentrisme, tout le monde met en avant cet argument. C'est vrai que ça simplifie le rôle des role players. C'est un peu ce qui fait du coup qu'il y a cette critique qui revient souvent sur les équipes qui jouent comme ça, qui est notamment des joueurs comme des anciens joueurs comme Charles Barkley, qui critiquent souvent les joueurs en gros qui vont attendre dans le corner et qui vont attendre que la star, le soleil, veuille bien leur donner le ballon pour qu'ensuite ils puissent sanctionner. Et c'est vrai que on en parlera après. Pour moi, c'est un des gros inconvénients de ce système-là, c'est qu'arrivé à un moment, tu peux pas laisser 4 joueurs plantés. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la compétition t'oblige à faire autre chose, et c'est peut-être ce qui explique le manque de succès de ces équipes. Avant peut-être de parler de ça, les gars, une dernière idée sur l'évolution. C'est quoi la différence avec, je vais être dans la caricature totale, les croqueurs des années précédentes? Elle est où la différence selon vous? Parce que en réalité, on avait peut-être déjà des petites graines de joueurs qui avaient beaucoup la balle dans la main, qui scoraient beaucoup. Est-ce que c'est le playmaking la différence?
Je pense que essentiellement c'est le playmaking, et notamment sur la notion de kick out et le côté diffusion sur les autres joueurs. J'aime pas trop le terme rendre les autres meilleurs, puisqu'en fait tu rends pas vraiment un joueur meilleur en faisant ce qu'il sait pas faire. En fait, tu empêches le fait que ses faiblesses soient mises en avant, en fait. Je pense que tu le maximises plus dans le sens où il fait pas des choses sur lesquelles il est pas forcément doué, plutôt que le rendre meilleur, en fait. C'est simplement cacher ses faiblesses. Donc, moi, je pense que c'est vraiment le côté diffusion, passe, et au lieu que ce soit uniquement du scoring de rencontre 1 et de la finition à mi-distance.
Je pense aussi qu'il y a une notion... de théorisation et d'acceptation de ce système-là. C'est-à-dire que ça a été mis sur le papier, ça a été discuté probablement au sein des équipes, par le coach, avec le joueur principal et avec les role-players, où c'est admis, on va jouer comme ça, et donc ça, comment dire, les joueurs qui sont dans leur rôle vont pas avoir tendance à se frustrer, vont plutôt accepter ce système-là. Et je pense que ça participe à la différence avec, je sais pas, un Iverson, par exemple, pour prendre un croqueur renommé d'époque, qui était en tout cas reconnu comme tel, et c'est le cas. Hein, il avait une grosse partie de son jeu était basée sur son scoring, beaucoup moins sur la création sur les autres. Mais je pense que puisque cette idée a été théorisée et diffusée aussi au sein de la Ligue, dans plusieurs équipes, à partir de là, ça devient un concept auquel tu adhères ou tu n'adhères pas, mais de la même manière que Seven Seconds or Less ou de la Triangle Offense, ou, voilà, etc. C'est une façon de jouer, on définit qu'on joue comme ça, et tout le monde l'accepte.
Puis c'est d'autant plus, je te redonne la parole Tom, je pense que c'est d'autant plus facile à accepter que on reprend le listing des équipes. Houston va tout le temps en playoff, c'est un des cadors de la NBA. Milwaukee, alors ils sont pas allés en finale NBA, mais ils ont régulièrement, ils sont premiers à l'Est depuis quelques années. On a les OKC de Russell Westbrook qui avait moins de talent mais qui a 48 victoires de moyenne sur l'après Durant, ce qui reste énorme quand même pour une équipe qui a perdu Durant. Donc c'est aussi plus facile à accepter quand tu gagnes. Ça peut paraître, c'est basique, mais c'est plus facile pour les roleplayers.
Ben surtout que quand tu perds généralement, enfin tu te demandes, puisque en fait il y a un sacrifice quand même qui est fait de la part de chacun, puisque si t'as un de ces roleplayers, tu un peu à la, par exemple Jeremy Grant, t'es un de ces roleplayers que tu sens que tu as plus à donner, ben t'as l'impression aussi que ben si ça fonctionne pas, t'as l'impression que ton talent est gâché, et au final quand tu t'es pas en, ça fonctionne, ça c'est, je pense que c'est un principe qui est accepté uniquement quand ça fonctionne. Mais en tout cas il y a un truc qui m'a surpris moi quand on a décidé de faire ce sujet là et quand j'ai commencé à faire mes recherches dessus, c'est que ben selon Ben Taylor que tu as cité tout à l'heure, Ben, c'est un phénomène qui remonte vraiment à limite aux années 50-60 quoi, avec Bob Cousy et Oscar Robertson quoi. Donc c'est quelque chose qui peut-être, c'est peut-être quelque chose que nous dans notre suivi de la NBA on n'a pas vraiment eu, dans le sens où ben si on a commencé à suivre la NBA aux alentours de fin des années 90, début des années 2000, là on parlait, il y avait plus de duo, et ensuite il y a eu la période Big Three, et on n'avait pas vraiment ce concept là qui est revenu vraiment libre nos Cavs quoi.
Ou même si on a suivi la NBA avant la guerre du Vietnam, si on n'a pas suivi la NBA avant la guerre du Vietnam, on peut pas vraiment connaître ça. C'est vrai. T'as parlé de sacrifice, je vous propose d'avancer les gars sur, alors on a une grande partie, alors je savais pas comment l'intituler vraiment dans la trame, les avantages, les inconvénients, un trame qu'on a travaillé tous ensemble, avantages, inconvénients, et t'as cité le mot le plus important selon moi, Tom, sacrifice. Sacrifice. Est-ce que c'est pas ça une des notions centrales, Adrien, le sacrifice? Parce que moi, mon problème que j'ai philosophique avec l'héliocentrisme, arrivé à un certain niveau, on parlera des playoffs après, c'est que c'est difficile d'être, si t'es un top 20 NBA, voire 25, c'est difficile d'être juste Mercure. T'as envie d'être le soleil.
Là, tu prêches un converti, et puis on a des exemples assez criants de ce que tu viens de citer, de gens qui ont été frustrés, qui ont voulu retrouver ce rôle de soleil. Je vais citer ce cher Kyrie Irving, qui a été à la base au centre de ce que faisait Cleveland quand il était en début de carrière. LeBron arrive, il se retrouve éclipsé, si j'ose dire, par LeBron, et ensuite souhaite retrouver un rôle au centre d'une offense, avec plus ou moins de réussite, évidemment. On sait ce qui s'est passé. Mais forcément, la frustration se crée. Et puis, il y a un autre facteur. Alors là, ça va pas forcément plaire aux adeptes de le basket est beau quand on gagne. Mais je vais faire mon vieil esthète du basketball. Mais l'héliocentrisme a quelque chose d'assez frustrant quand on aime le basketball comme on l'a appris chez nous en Europe, collectif, à base de redoublement de passes et de systèmes. C'est quelque chose de très simpliste. Et effectivement, bon, ça, c'est le point de vue spectateur et aussi du point de vue joueur. C'est vrai que c'est compliqué. Et ça fait partie de ses limites. Tu parlais tout à l'heure, Tom, des victoires en saison régulière. Généralement, les équipes avec cet héliocentrisme ont un soleil qui est tellement fort, qui a un talent tellement grand, qu'il va t'amener tes victoires en saison régulière. Comme tu disais, Ben, beaucoup d'équipes qui ont gagné pas mal de matchs en saison régulière, qui ne sont pas forcément allées au bout en play-off. Ça, on y reviendra. Donc effectivement, tu gagnes des matchs. Mais par contre, tu vas avoir un souci de quand ton soleil est un peu en deçà, eh bien, tu vas te retrouver avec des joueurs qui sont pas forcément totalement dans le rythme. C'est quelque chose de très bête, qui est un peu mental, qui est difficilement quantifiable, mais quand tu vois très peu la gonfle et que tu dois mettre le bon 3 au bon moment, eh ben c'est plus compliqué. Et par exemple, je pense que le cas de ce fameux match des Rockets, avec une infinité de 3 points qui ne rentrent pas, est une espèce d'illustration extrême, parce que c'est quand même un cas totalement extrême statistiquement.
Ils refont ces trois points-là 10 fois, je pense.
Mais oui, mais ils les mettent 95 fois sur 100.
Ils en mettent au moins 2, tu vois.
Oui, non, mais on est bien d'accord. Mais je pense que c'est quelque chose qui découle aussi un peu de ça, des risques de ce jeu-là. Il y a une espèce de frustration quand t'es le joueur qui est juste dans le corner. Parce que même si t'es un spécialiste, comme on le dit dans la NBA, comme tu disais tout à l'heure, Ben, on parle de joueurs NBA qui sont quand même la crème de la crème des joueurs de basketball. Et tu as toujours envie d'essayer de faire un peu plus, de contribuer un peu plus. Tu sens que t'as certaines qualités, surtout quand t'es un joueur un peu moins, enfin, plus sur le début de ta carrière que sur la fin. Tu te dis, ah, je pourrais contribuer autrement, on pourrait faire mieux. Et je pense que cette frustration est quelque chose à pondérer dans cet héliocentrisme en NBA.
Tu m'as fait réfléchir à un truc, c'est peut-être pour ça que c'est toujours des équipes où il y a beaucoup de vétérans. Bref, on passera, mais c'est peut-être pour ça, parce qu'il y a, c'est pas des équipes. Alors on nous rétorquera que souvent les grosses équipes ont peu de jeunes, c'est vrai, mais celles-ci sont souvent assez caricaturales à ce niveau-là. Très bien. Tom, qu'est-ce que t'as à dire? Parce qu'ensuite, je vais vous lancer sur une des grandes questions, c'est est-ce que c'est pas devenu trop démocratisé en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a des équipes qui jouent pas, qui ont pas joué, parce que je pense aux Bucks par exemple, comme ça. Allez, on y va maintenant. Est-ce que certaines équipes ont pas adopté cette stratégie en se trompant? Moi, je pense clairement aux Bucks qui, là où ils ont pu réussir en saison régulière, en fait, il y a dans l'héliocentrisme de base, je pense que ça met tellement de pression sur ton joueur, ton porteur de balle pour faire des différences que Giannis n'était ni un shooter extérieur, ni un playmaker du niveau de Doncic, Harden, Young, LeBron, etc. Du coup, ça limite très vite ton équipe. Est-ce que tu penses pas que certaines équipes en ont adopté cette stratégie à tort?
Je dirais pas adopter la stratégie à tort, puisque le but de l'héliocentrisme, c'est toujours donner les décisions les plus importantes de ton jeu à ton meilleur joueur balle en main. Donc, en fait, vaut mieux que mon meilleur joueur ait beaucoup plus souvent la balle en main, puisque si on reprend Harden par exemple, vaut mieux que James Harden ait la balle pour créer que Ben McLemore ou tu vois Russell Westbrook. Il y a eu beaucoup ce problème qui revenait notamment sur James Harden où on disait il lâche pas la balle, mais vous voulez que qui crée. Et en fait, et c'est peut-être ça en fait avec Giannis, peut-être que c'est le bon système pour eux, mais peut-être que Giannis n'est pas le bon joueur avec lequel jouer ce système-là, tu vois. Puisque Giannis, c'est pas forcément un playmaker naturel, c'est un joueur qui a beaucoup progressé là-dessus, mais c'est un joueur qui va faire des différences, mais qui a pas une vision de jeu élite comme tous les gros playmakers que tu as cités, ou les LeBron James et Luka Doncic. Je pense qu'on peut même rajouter Trae Young au niveau de la passe, vraiment de la création de la passe, même limite John Wall aussi, qui est un passeur, qui pour moi est un passeur sous-estimé dans la ligue. Mais globalement, tu vois, je pense que quand tu as un joueur qui est sur ton front court, pour moi, l'héliocentrisme ne peut pas exister si ton joueur majeur, le joueur qui a le ballon, n'a pas de shoot. Il peut pas punir les défenses frontalement sans devoir agresser la raquette. Pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça.
D'accord, Adrien. Est-ce que tu penses que certaines équipes l'ont peut-être pas utilisé à tort, mais avec les mauvais joueurs?
Il y a un peu de ça. Je suis d'accord sur la dernière partie de ce que vient de dire Tom, et c'est quelque chose qu'on a vu notamment dans les derniers playoffs et qui a manqué à Giannis, cette capacité de sanctionner quand les défenses se resserraient et lui interdisaient l'accès au cercle, tout simplement. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a, alors pour pas aller jusqu'à mon Tatooine avec deux soleils, il y a quand même pas mal d'équipes qui compensent ça avec un deuxième créateur, quelqu'un qui peut compenser un peu la création quand le fameux soleil n'est soit pas en réussite, soit pas sur le terrain aussi également. On parlait même de James Harden quand, à l'époque où il y a Chris Paul fait beaucoup de boulot pour ça quand ils doivent alterner. Du côté de Milwaukee, il y a eu ces choses-là aussi. Je pense que c'est important, on le voit en tout cas dans les résultats pour aller au bout, parce que c'est de ça dont on parle là maintenant, c'est histoire de gagner vraiment pour être champion. Les équipes, il y a eu des équipes qui ont eu, disons, des talents très hauts et peut-être le reste de l'effectif plus bas, puisque c'est ça aussi l'héliocentrisme, c'est tu as un joueur très très haut et le reste qui est plus homogène, on va dire. Et peut-être qu'ils font un deuxième, voire un troisième dans ton plafond qui sont relativement hauts, et c'est des cas, mais ça marche pas forcément, c'est des cas comme Portland, où là tu as CJ McCollum, et on le voit bien d'ailleurs, puisque en ce moment, avec seulement Damien Lillard, parce que CJ McCollum malheureusement ne joue pas, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Et puis il y a ces questions de la question qu'on se posait sur les Lakers l'année dernière quand LeBron s'assoit. Est-ce que Anthony Davis c'est suffisant? On retrouve un peu la problématique Giannis. C'est des questions à se poser sur effectivement les profils de joueurs, mais aussi peut-être de pas exacerber l'héliocentrisme au point où quand ton soleil n'est soit pas là, soit pas en réussite, soit l'équipe adverse trouve quelques solutions. Et il faut un peu plus d'alternance, et c'est aussi une des critiques qu'on peut émettre envers ce jeu-là, c'est ce manque d'alternance où finalement les possessions se suivent et se répètent, et finalement ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, et en plus en termes de spectacle c'est plus ou moins intéressant.
Ça me fait, alors le Super Bowl est dans quelques heures, ça me fait vraiment penser, parce qu'on est dans les sports américains, donc on le parallèle est possible, il y a vraiment toute cette idée autour du football américain qui a pris un peu germe au même moment, c'est vraiment l'idée de je mets le ballon dans la main de mes meilleurs joueurs parce que c'est eux qui vont faire la différence en fait. J'arrête de donner le ballon ou de faire des systèmes, et c'est marrant comment les critiques sont un peu les mêmes, où certains disent non mais c'est un jeu d'universitaire ou de lycéen, c'est n'importe quoi de jouer comme ça, et où en fait il y a des équipes qui gagnent qui jouent comme ça. Certaines équipes, même les équipes les plus talentueuses, vont sans doute vont adopter ce style de jeu là parce que logiquement en fait, tout bêtement, oui, mettre la balle dans les mains de tes meilleurs joueurs, ça paraît être la meilleure chose à faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà, les gars, une évolution? Parce que depuis le début de l'émission, on donne quoi comme exemple? Harden, Houston, Harden et aux Nets. Westbrook, Oklahoma City. Westbrook a depuis joué à Houston avec James Harden. Il est maintenant à Washington avec Bradley Beal. Giannis, on lui a ramené Jrue Holiday. Alors certes, c'est pas Steve Nash dont on parlait, mais il y a Jrue Holiday. LeBron, Pelinka semble décidé à toujours lui mettre un meneur. Tom, est-ce que déjà il n'y a pas eu une mini-évolution en se disant non, par contre, donner que un ball handler, c'est pas possible. Un porteur, c'est pas possible.
Bah oui, puisque ça met énormément de pression sur le joueur. Et puis, c'est un peu un jeu de domino, en fait. Puisque à partir du moment où le niveau de ton joueur principal descend un petit peu, ben, vu que les qualités de tes autres joueurs sont bonifié et nourri par les forces de ton joueur majeur, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si ton joueur majeur, ben, il est affaibli, ben, typiquement, tout ton jeu est affaibli. On le voit, par exemple, à Dallas, sur le début de saison. Même si Luka Doncic fait d'énormes statistiques, ben, clairement, c'est quelqu'un qui a commencé la saison, il était pas très en forme, et ça se ressent. Ça se ressent clairement, et je pense que aussi les joueurs, quand t'as une telle importance dans le système de ton équipe, ce qui se passe, c'est que les joueurs aussi qui sont autour de toi, ils attendent de toi que tu sois au maximum tout le temps, parce que eux, tu leur demandes d'être au maximum tout le temps. Et ce qui se passe, c'est que si toi tu fais pas ta part du boulot, ben eux, ben peut-être qu'ils vont se dire, ben ouais, mais lui, tu vois, il fait rien. Moi, si je dépends de lui pour produire, il me nourrit pas correctement, et ben du coup je pense que ça peut créer des problèmes, et ça peut créer des tensions peut-être inutiles, puisque il y a des joueurs qui sont vraiment trop dépendants de la production d'un seul joueur, et je pense que ça crée des problèmes humains qui après génèrent des problèmes de basket en fait sur le terrain.
Tu retrouves la frustration, mais il y a aussi un autre facteur aussi, c'est si imaginons théorisons chaque équipe maximise va à fond dans cette logique d'héliocentrisme. Qui c'est qui gagne à la fin? Celui qui a le soleil le plus fort. Et c'est tout. Oui, bon, l'équipe de LeBron en l'occurrence. Mais théoriquement, ça restera toujours celui qui a le joueur le plus fort. Donc si tu veux gagner à un moment donné, il va falloir que tu joues sur d'autres facteurs. Tu ne peux pas que compter sur un seul joueur. Et si c'est le plus fort à l'instant T, tu as gagné. Si ce n'est pas le cas, tu as perdu. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a cette évolution, comme tu disais Ben, avec l'idée de retrouver un peu... Mais il y a un peu des cycles hein, dans l'histoire de la NBA, finalement, on y revient, où on va retrouver peut-être une deuxième star, peut-être...
Après, celui-ci est peut-être est très court, etc. Parce qu'en l'occurrence, il y a un revirement assez rapide.
On n'est pas encore sur un revirement total, mais effectivement, il y a une tendance qui semble que débuter. Mmh.
Ouais, parce que c'est ce que tu disais, hein, Ben, l'année dernière, on se disait, ouais, il y a des duos partout, boum, un trio, après un an, un trio.
Ça fait pas, je peux pas souvent m'envoyer des fleurs, donc je vais le faire. Je vous l'avais dit, les gars, pendant l'été des duos, ça durait jusqu'au moment où une équipe allait comprendre qu'elle pouvait pas gagner. Donc voilà, c'est arrivé. Et d'ailleurs, par rapport à ça, moi, je trouve ça assez intéressant. Alors, Kyrie, Harden et il y en a trop, j'arrive plus. Voilà, il faut des duos. J'arrive plus dès qu'il y en a trois. Mais moi, ce que j'ai aussi par rapport, peut-être pour revenir un peu sur Giannis, je trouve aussi que bien souvent, comme tu l'as dit, Adrien, c'est le soleil le plus gros qui va gagner, et on essaye toutes les équipes où j'ai l'impression que toutes les fanbases ou tous les journalistes à un moment ont voulu faire en sorte qu'on joue comme ça. Mon exemple, c'est l'arrivée de Kawhi aux Clippers où tout le monde parlait du playmaking de Kawhi. Ce qui, alors certes, c'est un joueur qui peut le faire, mais Kawhi est pas censé jouer comme un LeBron ou censé jouer comme un Harden. C'est pas du tout son jeu. Donc, en fait, j'ai l'impression que même nous, maintenant qu'on a vu certains joueurs comme des LeBron, on a dit les Doncic, etc., jouer comme ça, on pousse certaines stars à adopter ce jeu-là, alors qu'en réalité, il est fait pour qu'un profil de joueur assez particulier.
Clairement, ben, c'est quelque chose qu'on, par exemple, on le voit aux Knicks. Les Knicks ont une attaque héliocentrée autour de Julius Randle. Non, mais je te vois sourire à te dire, mais c'est ça, hein. Les Knicks ont une attaque héliocentrée autour de Julius Randle, tout comme les Spurs ont une attaque héliocentrée autour de DeMar DeRozan, qui est le playmaker principal et qui a des joueurs autour de lui qui, dont il se nourrit, notamment sur le côté spacing. Et qu'il arrive à nourrir lui parce que il arrive à mettre de la pression sur la défense en criant, en forçant la défense à venir sur lui quand, notamment quand il s'arrête à mi-distance et trouver des décalages pour que les shooters puissent sanctionner, en fait. Donc, typiquement, on veut peut-être forcer des joueurs qui sont pas, en fait, comme c'est une technique qu'on a vu qui marche avec LeBron James et avec un playmaker de grande taille, c'est quelque chose qu'on a peut-être voulu voir répliquer un petit peu partout. Sauf que, ben, le basketball, voilà, c'est pas noir ou blanc, tu vois, c'est gris. Et en fait, ce qui marche avec quelqu'un, ce qui marche avec un personnel ne va pas marcher avec un autre personnel, puisque tu peux avoir des joueurs de basket qui sont tous les deux très forts, mais tu vas pas demander à Kawhi Leonard de jouer comme LeBron James parce que ça marche avec LeBron James. Mmh. Ça veut pas dire que parce que ça marche avec LeBron James, ça va marcher pour Kawhi. Parce que ça a marché aussi pour lui si tu construis exactement la même chose autour de lui, tout simplement parce qu'ils ont pas les mêmes qualités de basket de base, en fait. Le tout, c'est de pouvoir mettre ton joueur dans les meilleures positions. Et par exemple, Tyronn Lue, ce qu'il fait, c'est qu'il met des shooters partout, comme ça, Kawhi, il peut oublier à mi-distance et sanctionner les défenses comme ça, en fait.
Et puis après, tu as aussi un risque de rentrer dans une espèce de cercle vicieux du si tu veux toujours jouer de cette façon avec ton fameux soleil. Si ton soleil il est pas assez bon. T'as les fanbase qui vont dire bon allez on le dégage, il nous en faut un autre et on recommence et l'exemple j'en parle en connaissance de cause puisque pour moi l'exemple des Bulls il est à peu près là, c'est-à-dire qu'au moment où on doit recentrer l'équipe autour de Jimmy Butler, le front office estime, alors après à tort à raison c'est autre chose, oula j'ai perdu mon téléphone, mais le front office estime que Jimmy Butler n'est pas assez fort, n'est pas dans cette catégorie de joueurs de LeBron, Kawhi, etc. Pour faire ça, on rebalance tout, on récupère donc tout un package avec plusieurs joueurs. Actuellement, le gars en question qui est le plus proche, on va dire, en tout cas le moins loin, si on veut, d'être le franchise player, c'est Zach LaVine. Zach LaVine n'est pas ce profil-là. Tu ne vas pas gagner avec un héliocentrisme autour de Zach LaVine, on est bien d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu rebalarques tout et on recommence? C'est un cercle, tu ne t'en sors jamais. Donc il faut aussi prendre en compte les possibilités que tu as avec ton effectif et effectivement peut-être s'ajuster, jouer un peu différemment. Et c'est là où on va retrouver plus de variété. Et je pense qu'on arrive à un cycle où il y a certaines équipes qui se disent on ne peut pas forcément appliquer ce schéma-là. Enfin, il n'est pas applicable dans tous les cas. Il faut aussi s'adapter avec ce qu'on pourrait produire avec notre effectif.
On aime souvent parler de la prise entre guillemets et on laisse bien sûr Adrien récupérer son téléphone. On aime vous pouvez le voir sur YouTube. On aime souvent parler de la prise de pouvoir des joueurs. Moi aussi, j'ai écrit là pendant que vous parliez, j'écrivais ça sur ma petite fiche. J'ai écrit contenter sa star. Il y a aussi le fait, alors peut-être que la fanbase va pas aimer, mais la star en elle-même, on sait que d'un point de vue égo, l'équipe est autour de moi. Ça, j'ai pensé à ça, Tom, quand t'as parlé de Julius Randle, en te disant, oui, c'est lunaire qu'une équipe soit autour de Julius Randle. Mais pour Julius Randle, quand on sait que le mouvement des stars est tellement accéléré, ça peut être bien pour lui de se dire, ouais, mais l'équipe, elle est autour de moi. Alors, les résultats ne sont peut-être pas glorieux, mais en tout cas, c'est le cas. Alors, il y a un truc en filigrane, les gars, qu'on n'ose pas vraiment dire depuis le début, mais on le glisse un petit peu en play-off. En playoff, ça. Alors, quand j'ai lancé le mot playoff, j'ai vu Tom faire un peu la moue et Adrien s'écarter du micro. Donc, je sais pas ce que ça veut dire vraiment.
Ça veut dire que pour moi, les faits parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'une équipe, en maximisant l'héliocentrisme, ne gagne pas et n'a pas gagné. Même des équipes qui auraient une seule star qui sortirait du lot, on peut penser à Dallas avec Dirk Nowitzki, faisaient peser une grosse partie de leur playmaking sur Jet Terry. Même LeBron, les Cavs 2009, c'est l'absolu LeBron soleil. Ça échoue pas très très loin, mais ça échoue quand même. Et je pense que pour ça, enfin que les playoffs montrent, les résultats des playoffs montrent qu'il y a une limite. Après, enfin, il y a des limites. Après, quelles sont-elles? Il y a plusieurs choses à dire. Je pense qu'on en a évoqué certaines, notamment le manque de variété dans le jeu. C'est-à-dire que puisque tu répètes tout au niveau de ta star et que les playoffs sont des séries de plusieurs matchs avec séances vidéo au milieu, adaptation, etc., tu te retrouves assez limité. Et puis, ce dont on parlait avec le fameux match des Rockets qui ne plante pas, tes seconds joueurs, parce que les séries de playoffs, c'est parfois un autre joueur qui explose et qui fait basculer une série. Coucou à Miami l'année dernière, qui a eu ses joueurs qui ont explosé de partout, et on embrasse Alan qui a beaucoup aimé sa série face au Heat. Mais voilà, et c'est des choses qu'on voit moins, je pense, dans des équipes héliocentrées, où en tout cas tu ne t'offres pas le plus de chances pour que ces facteurs-là rentrent en compte sur une série, et tu finis par trouver ta limite, sauf si vraiment ton soleil est énorme, et ça pourrait arriver théoriquement. LeBron James est presque capable de faire ça, mais qui à part LeBron James ?
Et souvent, quand LeBron, c'est la règle n'est pas bonne. Après, je vais lancer Tom sur peut-être un contre-exemple. Alors, on en parle souvent de ces Rockets, mais dans un monde, la série-là, les Rockets sont peut-être ce titre-là en étant héliocentré, ou en tout cas. Après, on pourra me dire qu'en play-off, est-ce qu'ils y sont vraiment avec Chris Paul ?
Voilà.
Ouais, c'est vrai, ils ont Chris Paul aussi, c'est vrai, ils ont Chris Paul. Mais après, ce que ça pose comme problème, c'est qu'en play-off, il y a des types de shoot qui changent. Moi, je trouve qu'en play-off, une partie de shoot que tu avais peut-être en saison régulière où tu arrivais à obtenir des catch and shoot ou des spot-up, ben ça devient du pull-up en fait. Et en fait, ces shoots-là, c'est à ton meilleur joueur de les prendre. Et là où va se faire la bascule, c'est le niveau global de ton meilleur joueur, quoi qu'il arrive en fait. Puisque même si tu as de bons role-players, au bout d'un moment, il y a certains shoots qui pourront pas avoir puisqu'ils seront neutralisés. On l'a vu par exemple, Boston face à Toronto, le box and one sur Kemba Walker, boum, ça les a forcés à trouver d'autres solutions pour se réajuster, pour se réajuster, sachant que voilà, Kemba Walker, c'est pas un joueur héliocentré, mais c'est un joueur qui est important pour les joueurs qui sont différents de Jaylen Brown et Jayson Tatum dans le 5, tu vois. Puisque eux, ils peuvent se suffire à eux-mêmes, mais les autres ont besoin du playmaking d'un joueur comme Kemba Walker pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir créer. Et on a vu ce qui s'est passé. Kemba Walker est devenu injouable. Il y a des joueurs qui sont sortis de la série. Clairement. Typiquement, je pense que ça se joue vraiment au niveau de ton meilleur joueur, puisque dans la répartition, moi, je me dis que, en fait, quand tu commences un match, c'est comme s'il y a une recette. Tu vois, t'as tous tes ingrédients et t'as tant de pull-up, tant de spot-up, tant de catch and shoot, tant de dunk, tant de lay-up, en fait, qui sont à ta disposition pour composer ta recette. Mais au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que, au fur et à mesure où tu arrives, et quand tu vas arriver, d'ailleurs, au niveau des playoffs, ben, on va t'enlever du lay-up, on va t'enlever du catch and shoot à 3 points ou du spot-up, et ça va être remplacé par, allez, du flotteur par-ci, du pull-up à mi-distance et du pull-up à 3 points. Et en fait, il faut que tu aies des joueurs qui soient capables pour survivre offensivement et que ton système tienne toujours la route, de répondre de réussir à faire le bon plat qu'il faut avec les ingrédients qui ont changé, qui sont devenus beaucoup plus difficiles à cuisiner, pour faire l'analogie.
On revient à la question de la spécialisation,
ouais.
Puisque l'héliocentrisme, c'est aussi la maximisation de tes spécialistes, comme tu dis, Tom, c'est-à-dire que tes ingrédients, c'est aussi, bon, bah, t'as un joueur, il est spécialisé dans, lui, il met ses 3 points au catch and shoot. Et il ne fait que ça. Et il fait des répétitions tout au long de la saison, il n'a fait que ça. Arrive en playoff, si tu lui demandes, même si c'était potentiellement dans ses capacités de prendre un pull-up après un dribble ou des choses comme ça, il n'y a pas de répétition. Donc du coup, arriver à changer sa spécialisation à ce moment-là, c'est trop tard et ça ne fonctionne pas, c'est beaucoup plus compliqué. Là où si tu as un système un peu moins extrême, parce qu'on est quand même toujours en NBA de manière globale sur des systèmes où c'est quand même les stars principales qui phagocytent la grande partie du jeu offensif, mais où tu as des joueurs qui ont quand même eu plus de répétitions dans la saison et sont capables un peu de créer des recettes avec différentes épices, Eh bien, forcément, ça t'apporte une capacité d'adaptation qui est plus compliquée que lorsque tu es dans un système totalement caricatural.
Ouais. Après, moi, là où je suis pas trop d'accord, c'est qu'en fait, moi, je me dis que, enfin, un peu comme nous quand on fait des podcasts, ce que tu vois, c'est que la partie au-dessus de l'iceberg, en fait. C'est pas parce qu'un joueur on lui demande de faire ça en match qu'il sait faire que ça. Et oui. Je pense que, tu vois, le côté héliocentrisme, on l'a dit, ça peut créer une certaine frustration parce que des fois, t'as des joueurs qui pensent qu'ils ont beaucoup plus à offrir à l'équipe et à partir du moment où ça marche pas, ça peut un peu péter. Et je me dis que Certes, tu vois, par exemple, d'ailleurs, c'est Gilbert Arenas qui en parlait dans son podcast, qui disait que, tu vois, en finale, Rondo, qui était plus un meneur playmaker, qui est devenu scoreur en playoff. En playoff, c'est devenu un meneur scoreur. Puisque LeBron s'occupait du playmaking, il est devenu scoreur. Donc lui, il a changé un peu son jeu pour faire ce dont l'équipe avait besoin, puisque lui, ce qu'il apportait en temps de base, il y a quelqu'un qui était là pour le faire, et la personne le faisait mieux que lui. Donc du coup, il a changé une facette de son jeu pour s'adapter à ce que veut son équipe. Mais ça, tu peux le faire uniquement si tu as une palette différente, tu as plusieurs jeux à jouer, quoi. Et je me dis que ce pourquoi on te prend dans un système héliocentré, ben ça a peut-être vocation à changer de temps en temps par rapport à un moment. Donc tu dois être capable quand même de pouvoir produire autre chose que ce qu'on te demande simplement dans le système héliocentré.
On n'est pas en désaccord total. Je pense que c'est à nuancer. On va reprendre aussi ce que disait Ben un peu plus tôt, la petite remarque sur les joueurs expérimentés dans les équipes qui vont plus loin en playoff. Rajon Rondo, c'est un gars qui a eu à endosser plusieurs rôles dans sa carrière et qui a eu l'habitude de faire ça. Moi, j'étais plus concentré sur une saison et la répétition. Et quand t'as un jeune joueur que tu transformes, plus ou moins jeune, hein, mais que tu transformes par exemple en simple catch and shooter, alors que c'est peut-être un facilitateur, retrouver cette alternance dans son jeu, ces qualités qu'il a, mais les refaire sur demande, c'est pas aussi simple que ça. Ça demande une certaine répétition. Alors après, il y a les entraînements, il y a des choses qu'on ne voit pas, bien sûr, c'est faisable. Et pour prendre un exemple qui n'a rien à voir avec les joutes de phase finale, mais de Nicolas Batum, qui est une des très bonnes surprises de cette saison. Il a été un peu transformé dans son passage à Charlotte et on pouvait pas lui redemander d'un coup de redevenir un créateur, un facilitateur. Là, il a une saison et il retrouve un rôle où on retrouve ses qualités. Alors c'est presque miraculeux, hein. Moi j'avoue personnellement, mea culpa, j'y croyais pas forcément.
Nous tous.
Mais le fait est que voilà, il arrive à retrouver ce truc-là. Mais pour certains, c'était fini. Et tu vois, sur une saison, c'est très compliqué. Sur l'ensemble du carrière, effectivement. Ces joueurs, comme on le disait, ça reste des joueurs NBA, et on le rappelle, moi j'aime bien le répéter souvent, ces gars-là, même le gars du fin fond du banc, il éclate la majorité des joueurs de basket de cette planète et de très très loin.
Clairement.
On se rappelle d'une vidéo d'il y a quelques années de Brian Scalabrini qui affrontait des jeunes joueurs universitaires, il n'y avait pas match du tout, alors que Brian Scalabrini était un peu facilement moqué.
Après, pour reprendre encore les propos de Ben, moi j'insisterais vraiment peut-être sur la notion de frustration et surtout sur le fait que, alors oui, c'est pas parce qu'on leur demande pas pendant la saison régulière, on va pas demander à un mec, je sais pas, PJ Tucker, on va pas lui demander de faire de l'ISO, c'est vrai. Alors peut-être que oui, dans son jardin, il peut faire de l'ISO. Le problème, c'est que en playoff, quand le moment où tu lui donnes, en fait, c'est un peu lui refiler la cocotte en
la
flamme.
Patate chaude.
Oui, parce que lui refiler, bah allez, vas-y, fais une ISO maintenant en finale NBA. Non, c'est pas vraiment possible de faire ça. C'est pour ça, si en fait, enfin. Si le mec pendant la saison régulière il joue en catch and shoot, mais en fait il est capable d'être élite dans ISO, flotteur, etc. C'est un top 20 NBA et il acceptera jamais d'être Mercure. Il acceptera jamais d'être Mercure. Même Chris Paul époque Houston est pas Mercure. C'est-à-dire qu'il y a quand même une alternance, etc. Donc je trouve quand même que il y a un moment où idéalement c'est pas possible. C'est-à-dire que si t'es lié au centre à un niveau totalement extrême, les joueurs autour vont forcément avoir des limitations.
Ouais. Ton deuxième, c'est un peu comme les Hawks, quoi. On a vu qu'il y a eu un petit fifi déjà au début de saison, où John Collins trouvait que l'attaque n'était pas, ne tournait pas assez bien à son goût. Puis Trae Young qui a fait la gueule, qui a fait une Kobe et il a arrêté de prendre des shoots. pour montrer, voilà, c'est comme ça quand je shoote pas, voilà ce qui se passe. Donc, tu vois, typiquement, ouais, c'est vrai que quand tu as une équipe de jeunes joueurs qui n'ont pas encore été payés ou qui n'ont pas encore eu des échecs et qui cherchent à trouver leur place dans la ligue, c'est quelque chose qui va fonctionner un petit peu plus difficilement, je pense.
Eh bien, justement, je te relance ensuite, Adrien, c'est justement le débat sur les jeunes joueurs. C'était notre dernier point. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place avec les jeunes joueurs? Parce qu'il y a des exemples assez intéressants. Alors, j'aime bien cette stat, moi. J'ai l'impression que la communauté analytics l'aime pas. C'est le temps de possession. Alors, c'est une stat totalement brute. Le top 2. Alors, ils se sont échangés la place. Il y en a un qui était premier l'année dernière, il est deuxième maintenant. Doncic Young. Trae Young, qui est depuis son entrée en NBA, ça c'est surréaliste, qui est dans le top 6 des joueurs qui ont le plus de ballons en main. Il était 6 saisons rookie, premier saison sophomore, deuxième cette année. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de viable dans une jeune équipe, comme l'a dit Tom, avec un jeune porteur de balle? Est-ce que c'est bien de faire ça?
D'ailleurs, petit astérix par rapport à ça, simplement pour faire le raccord avec une stat avancée, on utilise souvent le usage pour le temps de possession, généralement. Moi, ça m'est arrivé d'entendre que les gens confondent en fait le usage qui est vraiment la part des possessions de l'équipe que tu termines, soit par un tir, soit par une faute provoquée ou par un ballon perdu. ou là où le temps de possession, c'est le temps où tu as le ballon en main. C'est-à-dire que tu peux avoir un gros usage sans forcément avoir la balle. Voilà, voilà pour le petit aparté.
Très bien. Et ben pour commencer cette réponse, parce que je ne vais pas avoir la réponse absolue, je pense qu'il y a, on parle des risques sur les jeunes joueurs. Il y a deux facteurs. Il y a le jeune joueur en tant que soleil et le jeune joueur en tant que planète.
Ouais.
Voilà, pour reprendre cette comparaison-là. Le risque sur un jeune joueur, je pense pas qu'il soit très en tant que soleil, je pense pas qu'il soit très grand en lui-même. Je pense pas que tu inhibes un Trae Young ou un Luka Doncic en lui donnant le plus de ballons. Au pire du pire, tu vas lui faire prendre une grosse testasse et il pourra plus, si après ça ne fonctionne pas, il ne voudra pas reprendre un rôle un peu moins grand. Mais de manière générale, si on parle juste basket et qu'on met d'un peu de côté le mental, il va avoir essayé pas mal de choses sur sa palette offensive et il va plutôt avoir développé, par exemple, alors c'est pas héliocentré, mais quand on prend un jeune joueur qui était un arrière en NCAA, qu'on essaye d'en faire un meneur, eh ben, il essaye d'apprendre la création sur pick and roll, certaines lectures. Des fois, ça ne marche pas, mais c'est pas grave, ça va pas. Au contraire, c'est plutôt quelque chose de positif dans la suite de sa carrière. Quand on va lui demander, justement, en playoff, d'avoir la balle et de jouer son pick and roll, eh ben, il aura cette habitude-là. Donc, pour ces jeunes joueurs, je pense pas que les risques soient très grands. Je sais pas si c'est le cas pour vous. Pour les role players, je pense que c'est autre chose, puisque justement, on a ce risque, pour reprendre cette histoire du vétéran de Rondo qui avait été capable de s'adapter, qui va se sur-spécialiser en début de carrière, alors qu'on aurait pu développer certaines autres facettes de son jeu qui auraient pu l'amener. Alors ça peut, bon, déjà de manière basket, bon bah on le bride d'une certaine façon, vu qu'on va le contenter dans un certain rôle. Il peut y avoir une frustration personnelle pour lui, parce qu'on a envie, quand on se dit « Ah, j'aurais peut-être été capable de faire mieux », ça peut amener des dissensions de vestiaire, comme on évoquait là, comme tu évoquais Tom avec Atlanta. Et puis après, j'avais un truc en tête et je l'ai perdu pendant que je le disais, ça me reviendra. Donc je vous laisse la parole, ça va me revenir.
Je pense que juste pour rebondir que ça, c'est très risqué puisque ça peut mécontenter aussi ta star. Puisque si les roleplayers que tu as à côté ne sont pas bons, ben le système ne va pas te décoller et du coup tu t'exposes à ce que ton joueur majeur te demande un transfert puisqu'il voit que l'équipe ne progresse plus et tu vois. Si tu dois tout créer tout le temps pour tout le monde et que les mecs ne mettent pas les paniers, on l'a vu, c'est sorti souvent, LeBron James, quand tu mets pas les shoots, il est pas content. Jay Crowder, il a pas fait long feu à Cleveland, hein, Jay Crowder. Hein. Il a pas fait long feu. On l'a envoyé à Utah très très vite. Voilà.
En ce moment, les frustrations de Doncic aussi découlent un peu de ça probablement.
Voilà, c'est ça. Parce que tu fais tout pour tout le monde, entre guillemets, tu parce que toi aussi, quand tu dois être le porteur de balle principal, ben tes statistiques en pâtissent, certes, tu fais du volume, mais tes statistiques en termes de réussite en pâtissent puisque tu prends des shoots difficiles, tu vois, quand tu vois le pourcentage au shoot de Luka Doncic, le pourcentage à 3 points de Luka Doncic, tu vois, il est aux alentours de 30% après avoir très mal commencé, mais c'est quelqu'un qui prend essentiellement des shoots à partir de son dribble, et il a quasiment pas de position facile où quelqu'un le décale pour un catch and shoot, par exemple, dans le coin. Et c'est ce qu'on expliquait aussi en début de saison, par rapport à Trae Young, c'est même si c'est quelqu'un qui domine énormément la balle, Trae Young était l'un des meilleurs joueurs de la ligue sur le catch and shoot à 3 points. Mais comme il a tout le temps là-bas, il n'a pas l'occasion d'en faire et du coup, ben, il en pâtit globalement. Et c'est vrai que ça peut aussi poser des problèmes. Et du coup, dans le côté rendre content et contenter ton joueur héliocentré, ben, il te faut aussi des role-players de bonne qualité. Et malheureusement, ça crée du coup une surenchère sur les bons role-players, entre guillemets, le morphotype Robert Covington. Ça crée une surenchère sur ce type de role-player-là. Qui sont les joueurs pour moi qui ont le plus de variance en fait, puisque quand tu prends la partie trendy, si tu perds 3% à 3 points, c'est totalement différent d'une saison à l'autre, tu vois. Si tu perds un peu de 3 points ou un peu de défense, ben la façon dont on réagissait à toi va être totalement différente. On peut le voir par exemple avec Dorian Finney-Smith cette année.
Et j'ai retrouvé du coup grâce à toi, là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement il y a un risque de cercle vicieux, c'est ce que tu disais là, où genre le franchise player, enfin le soleil, va dépendre des autres. Si les autres sont pas dedans, il va peut-être forcer un peu plus. Lui aussi, ça va baisser ses stats. Les autres voient moins la gonfle. Ça va aussi les embêter. Et un espèce de cercle vicieux comme ça. Quand ça ne fonctionne pas, les joueurs vétérans, voire peut-être plus de recul parce qu'ils en ont revu d'autres, pour accepter ce genre de choses. Pour une équipe jeune, tu vas se retrouver. Le cas Atlanta est assez intéressant là-dessus d'ailleurs. Sur une espèce de frustration générale. Alors après, ils peuvent en discuter dans le vestiaire, etc. Mais c'est à faire attention avec des jeunes joueurs qui sortent de NCAA, où souvent, on le rappelle, les jeunes joueurs qui arrivent en NBA, même pour être des role players, était parmi les joueurs principaux. Alors, sauf cas un peu particulier avec Calipari ou d'autres coachs comme ça, mais la plupart du temps, c'était des joueurs qui étaient les top joueurs de leur équipe depuis qu'ils ont 12 ans. Mmh. Et là, d'un coup, tu te retrouves à être le joueur qui doit dépendre de la création de X ou Y. Et effectivement, c'est une frustration qui peut être assez conséquente.
Mmh. Après, je reste mesuré sur les effets néfastes. Moi, quand je vois les Hawks, je remarque que Trae Young, en fait, alors certes, il a fait sa Kobe, comme a dit Tom, mais Trae Young, il a jamais appris à jouer sans le ballon. Enfin, s'il est trop fort catch and shoot, mais c'est, en fait, c'est même pas, je sais, au sein de l'équipe de Unkebdo, on pense que je déteste Trae Young, je déteste pas Trae Young, je vois des limitations qui, en fait, trop claires, mais bref, c'est pas le débat aujourd'hui. Mais Trae Young. Quoi? Pardon?
Ils arrivent en playoff.
Oui.
On est mort aux
ânes. Ouais. Oui, ça. Et puis à ce moment-là, on le critiquera, les mêmes qui auront dit à Trae Young, voilà, alors qu'il est à 33% à 3 points parfois. Bref. Alors, par rapport à Trae Young, en fait, c'est même pas par rapport à lui, c'est qu'en fait, de 1, il a pas appris à jouer sans ballon, et de 2, les joueurs autour de lui ne savent pas quoi faire quand c'est pas lui qui dirige l'attaque.
Oui.
C'est une catastrophe. Enfin, donc moi, je reste sur les jeunes, pour reprendre un peu ce que t'as dit, Adrien, sur les jeunes soleils. En fait, moi, c'est totalement impossible à prévoir, mais moi, il faudrait limite que tu sois sûr qu'à Doncic, que oui, il pourra être un soleil quand on sera en playoff et dans des grands moments. Ça, Doncic, enfin, je serais quand même surpris qu'il soit pas en capacité de faire ça. Je suis pas sûr que Trae Young puisse faire ça. Et en fait, du coup, ça peut totalement chambouler ma construction d'équipe. Après, ça, on est sûr de personne, bien évidemment, mais je pense que ça peut être dangereux.
T'as soulevé un point important qui est pas forcément uniquement pour les jeunes joueurs, mais que tu disais qu'ils ne savent pas quoi faire quand c'est pas le soleil qui est à la création. Et ça, effectivement, c'est une limite peut-être qu'on n'avait pas donnée à l'héliocentrisme, mais qui peut arriver, c'est que quand ton soleil s'assoit, il faut qu'il y ait parfois que t'aies aussi un autre role player dans ce style, qui va avoir ce style de création sur certains points, pour ne pas que le reste de ton effectif soit perdu. Et c'est peut-être un des problèmes de Dallas cette année qui a laissé partir notamment à JJ Barea. Je pense il y a JJ Barea, mais aussi d'autres joueurs, hein, bien sûr, mais dans ce style-là où ils te font
John White, qui est un peu dans le même style playmaker de grande taille plutôt de grande taille.
Ouais, c'est voilà. Mais pour ne pas, parce que sinon ton effectif peut vite se retrouver perdu quand il n'a plus son soleil, son créateur principal. C'est aussi quelque chose auquel il faut faire attention.
C'est peut-être pour ça qu'on voit, moi j'insiste vraiment, mais cette notion de deuxième porteur de balle qui est peut-être pas une foudre de guerre, hein, mais des Schroeder, alors Holiday qui est bien meilleur que Schroeder, on voit vraiment il y a cette volonté de se dire c'est pas viable de faire en sorte que ce joueur-là ait tout le temps la balle, parce que déjà oui on va se faire tordre, enfin c'est un peu comme ces moments où certaines des stars héliocentrées avaient des plus-minus totalement surréalistes, bah oui parce qu'ils étaient remplacés par Edmond Sumner, donc forcément il y a des moments où il arrive des bricoles, donc voilà, donc c'est ça qu'il faut un petit peu remettre en perspective. Bah messieurs, je pense que à part si quelqu'un a un truc vital à dire, je pense qu'on a un peu fait le tour de cette question sur l'héliocentrisme.
Pas vital, juste un petit truc sur cette question là du deuxième créateur. Il y a une question aussi qui se pose, mais on va pas avoir le temps d'y répondre parce que c'est une large question, de justement avoir ce même profil pour jouer tout le temps la même façon, ou de l'alternance en plus. Effectivement, c'est une question qui se pose. Est-ce que tu dois remplacer les mêmes pièces par les mêmes pièces, ou peut-être pouvoir proposer autre chose? C'était aussi une question qui se posait du côté des Lakers.
Et puis on a parlé de la charge, globale du joueur. Ben ça leur met une pression entre guillemets globale sur ce joueur-là, qui fait que au bout d'un moment, si tu fais par exemple 4 saisons d'héliocentrisme, tu gagnes pas, tu termines au premier tour, t'en as marre. Puisque toute la charge, t'es pas soulagé, en fait. T'es pas soulagé, tu dois reprendre à chaque fois les mêmes choses pour les mêmes joueurs. Ben, au bout d'un moment, t'en as marre et tu t'en peux plus, tu vois.
Tu vas signer au minimum aux Warriors.
Voilà.
Ouais. ce sera le mot de la fin. Puis, alors, peut-être qu'on refera ce podcast-là dans quelques années, parce que c'est un débat intéressant, mais selon moi, le vrai problème du débat, c'est que de base, on a eu une NBA un peu sclérosée avec Warriors, Rockets, Cavs, qui font que on n'a pas eu beaucoup d'exemples d'équipes parfois qui ont tenté des choses. Donc, à voir. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce débat-là. C'est surtout, je l'ai dit sur Twitter, c'était un vrai plaisir, les gars, de se dire qu'on a vraiment, on a la possibilité de maintenant de faire des débats sur les sujets qu'on veut, qu'on ne se limite pas. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je les avais pas prévenus. Je vais leur poser une petite question. Selon vous, les gars, depuis juillet, donc là, on a changé d'hébergeur en juillet, voilà, pour vous donner l'inside. Selon vous, si on retire les previews qui marchent tout le temps bien, et le DH20 parce que c'est un épisode un peu particulier, quel est l'épisode qui a le mieux marché selon vous depuis juillet?
Depuis, j'ai eu...
Alors, on n'a pas les stats, c'est dur. Ouais. Moi, je veux juste dire un que j'ai beaucoup aimé, je sais pas s'il a bien marché, mais c'est petit versus gros marché. J'ai bien aimé, c'était
ouais, moi, bingo. Je pense que c'est soit ça, soit les jeunes joueurs, puisque c'est quelque chose dont on parle très peu et qui, le côté pépite, et puis c'était, je pense, au moment peut-être un petit peu après la draft, puisque la draft était un peu décalée. Peut-être que ça a peut-être.
Oui, puis il y a la starification d'Alan Guillou qui amène des gens.
Et ben, c'est petit versus gros marché. Et franchement, moi, je tenais à remercier les auditeurs parce que ça prouve qu'on peut faire des paris sur les sujets, qu'on a le droit de tenter des trucs qui sont, alors il n'y a pas d'équivalent et qu'on peut avoir des bons résultats. Donc franchement, on vous remercie et on espère surtout que celui-ci, vous l'aurez entendu en entier et pas comme la dernière fois. En tout cas, c'était un plaisir les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur les plateformes de streaming. Laissez un petit commentaire. Alors ça nous aide au référencement. Je vais pas faire comme les youtubeurs et trouver une raison totalement lunaire pour vous faire commenter. N'hésitez pas à débattre avec nous dans les commentaires. Messieurs, c'était très très plaisant. Moi, j'ai vraiment kiffé ce podcast.
Merci, merci beaucoup.
Et bien du coup, on vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut.
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 Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.